Richard, je n'oublierai pas, le 15 avril dernier, nous étions en onde, en pleine émission, et nous regardions ces images effroyables de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui était la proie des flammes. Un des moments là, poignants, c'était lorsque la grande flèche s'est écroulée. La flèche a provoqué ensuite l'écroulement de la voûte, la croisée du transept, et on a craint du côté des pompiers pendant un certain temps que les deux tours soient fragilisées et peuvent peut-être s'écrouler.
Oui, absolument. Et le hasard a fait, hein, cette journée-là, que Patrick Bruel était dans nos studios.
Exact.
Alors, dans ce documentaire qui s'appelle Notre-Dame en flammes, c'est diffusé demain, 22h à Canal D. Si vous ne regardez pas les Raptors l'emporter contre les Warriors demain soir, et c'est rediffusé dimanche à 21h aussi. Donc, c'est une équipe française qui raconte d'heure en heure les événements et beaucoup évidemment le travail titanesque des pompiers qui étaient plusieurs centaines et là-dedans on voit à quel point c'est un travail incroyable qu'ils ont accompli.
L'incendie a duré 9 heures. Ça a mobilisé autour de 400 pompiers et il y a une pompière qui parle dans ce documentaire-là qui a l'air d'avoir 12 ans. Et qui s'exprime.
Moi, je l'ai adoré.
Ah, vraiment, elle est intéressante. Elle raconte que quand la fameuse flèche est tombée, elle est tombée tout près d'eux. Ils étaient en haut, ils étaient tout près. Elle raconte à un moment donné à quel point c'était insupportable, la chaleur. Elle dit, t'avais l'impression, tu sais, t'avais vraiment l'impression d'être trop proche, là. On voit ce qui se passe et ce qui s'est passé avant. Surtout, ce que tu disais, bon, les événements quand ils sont survenus et même avant qu'ils ne surviennent. Parce que la première chose, c'est que l'électricité a manqué. Donc, il y a eu une panne d'électricité. Et le curé, le père Caveau, même pas pris ses affaires, même pas. Il est en train de dire la messe, il a pas paniqué, puis il a dit.
Les gens n'ont pas réagi, en fait, à l'intérieur.
On va continuer l'évangile sans micro.
Ben oui, l'électricité s'est arrêtée. On va continuer l'évangile. Je peux vous dire que c'est pas rendu à communion, Paul. Et l'organiste a dit bon, ben moi j'arrête, là.
Moi j'arrête, puis on va entendre comment il le dit dans le documentaire, parce qu'il n'a jamais paniqué, il n'a jamais eu de problème, puis il s'est dit ben moi je peux pas jouer, fait que je vais m'en aller chez nous.
Il est environ 18h40. Lorsque le père Caveau tente de reprendre sa messe sans micro. Johan, l'organiste, décide de rentrer chez lui.
Moi, je sors de la cathédrale, j'arrive sur le parvis, je me retourne vers la façade, je ne vois ni flamme, ni fumée, aucune odeur particulière, aucun camion de pompiers. Je rentre donc chez moi, sereinement.
Sereinement. C'est le sereinement que
et
j'aime.
Et le père Caveau, lui, qui essaie de poursuivre sa messe,
ben, il s'est arrêté parce que là, il y a eu une deuxième alarme.
Ben oui.
Et là, c'était plus sérieux. Ben là, et là, il a fallu évacuer tout le monde assez rapidement. L'équipe de ce documentaire rencontre plein de témoins, dont un couple de Québécois.
Oui, ça, c'est intéressant.
Qui étaient là,
Luc
avec
Pichet
leur enfant.
Et sa famille,
oui.
Qui ont été évacués, qui étaient dans la cathédrale. Et à un moment donné, Luc Pichet raconte avec des images, parce qu'avec les téléphones aujourd'hui, c'est lui qui a pris les premières images de la fumée, la petite fumée, là, la première fumée grise, un peu obscure, qui sortait du toit. Mais lui, quand il a été évacué, il a pensé que c'était pour une question peut-être
d'alerte à la bombe
ou d'alerte quelconque. Là.
Un attentat terroriste.
Alors, oui, tout à fait. Vous allez voir aussi comment ça se passe en coulisses, comment ça se joue dans pour le sauvetage des œuvres d'art. C'est intéressant aussi.
Ouais. Puis on parle de ces gérants d'estrade, Paul, sur Twitter, là, qui disaient toutes sortes d'affaires farfelues, dont Donald Trump. Qu'est-ce qu'ils attendent pour envoyer les Canadair,
les avions citernes.
Et là, on explique, mais ça on le savait, mais on l'explique encore dans le documentaire, que c'est impossible. Les quantités d'eau, ça aurait pu...
pulvériser la cathédrale.
Voilà, alors ça aurait été encore pire.
Plus intéressant encore, c'est que tu peux marcher, tu te promènes dans ce qu'on appelait la forêt, c'est-à-dire ces arbres centenaires qui étaient dans le toit puis qui ont flambé. Mmh. Et là, tu as des images de ça avant que ça flambe. Là, on n'a pas eu accès, à moins d'avoir regardé un documentaire sur Notre-Dame de Paris, puis c'est pas tout le monde qui l'a vu, là. On n'a pas eu accès à ça. Ça, c'est intéressant. Et il y avait des nacelles. Les nacelles des pompiers dépassaient pas 30 mètres de haut. Tu sais, la cathédrale est quoi, 92 mètres ou quelque chose comme ça?
Ben, autour de ça. Au niveau des tours.
Au niveau des tours, oui. Mais bon, Là, on entend parler de Colossus, le robot des sapins.
Parce que là, ils ont envoyé un robot, Paul, parce que les pompiers ne pouvaient pas atteindre certaines parties. C'était trop dangereux. Ils ont envoyé ce robot et c'est lui, finalement, qui a réussi à maîtriser l'incendie. Alors, merci à Colossus.
Ouais. Il y avait des drones. Ils ont envoyé des drones pour aller voir d'où venait, parce qu'ils n'arrivaient pas à monter. Tu sais, c'est haut, là.
En tout cas, la mise en cause de l'incendie est facile. Hein? Je ne sais pas si vous avez vu dans les semaines qui ont suivi, on a montré des images de l'intérieur où on voit effectivement la forêt, là, ces immenses poutres prises à partir d'arbres centenaires. Au sol, il y a toutes sortes d'affaires, des fils qui s'enchevêtrent. Il y avait toutes sortes de produits, des solvants, des produits toxiques, des produits acides. Et puis... le moindre court-circuit allait allumer ça. Tout est en bois à l'intérieur. C'est comme si on avait provoqué, ni plus ni moins, le destin.
Et il n'y avait pas un système anti-incendie qui était efficace.
Exact.
Et on en montre un dans une autre église dans le documentaire. Ça aussi, c'est bien intéressant. Parce qu'on voit à quel point on avait pris des précautions dans cette église-là et qu'on devrait faire la même chose dans Notre-Dame. Évidemment, c'est beaucoup plus grand, mais ça devrait être fait.
Vous en aviez parlé tous les deux à votre chronique. On avait commencé à évoquer le départ de Dominique Chaloux, directrice de la programmation à Radio-Canada. Et puis, ça a été confirmé aujourd'hui.
Oui, elle quitte après 5 ans et 3 ans aussi avant la direction de la programmation de Télé-Québec. Donc, si on met tout ça ensemble, ça fait 8 ans. Ça use quand même.
Même plus longtemps que ça. Elle était directrice des variétés aussi, en 2004
absolument.
À Radio-Canada.
Oui.
Elle était directrice des variétés à Radio-Canada de 2004 à... mon Dieu, je pourrais pas te dire, peut-être 2009, 2010. Et après ça, elle est passée à Télé-Québec et elle est revenue en 2014, novembre 2014, début 2015, à Radio-Canada.
Et là, je lui ai parlé tout à l'heure et elle me dit, moi, là, dans ma tête, c'est mission accomplie. Je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire. Radio-Canada, ça va assez bien. À la télé District 31, on connaît le succès de ça, de plein d'autres émissions, le Bye Bye 2018. Et elle veut laisser sa place à quelqu'un d'autre. Je la comprends aussi parce que c'est une job assez stressante.
Puis, surtout qu'elle a une vie personnelle mouvementée, c'est-à-dire que quand même, elle a beaucoup, beaucoup d'activités. C'est quelqu'un qui est très actif. Et on lui doit à Télé-Québec, je pense à Deux Hommes en Or, à Un Chef à la Cabane, SNL Québec, plein, on pourra en nommer, là, les bobos.
Et elle ne prend pas sa retraite.
Non.
Ça, elle insiste, elle va travailler comme consultante. Pour le milieu de la télévision, justement. Et bon, elle n'a pas traversé des très, très grandes controverses comme certains de ses prédécesseurs. Il y en a eu quelques-unes dernièrement, entre autres sa décision de mettre fin à Demain des hommes, qui est une excellente série.
Oui.
Moi, j'étais très déçu de
On
ça.
On voulait la suite.
Et aussi, elle a mis fin à plusieurs émissions qui étaient là depuis très longtemps. Là. Je pense Entrée principale, Des squelettes dans le placard.
Il y a eu un grand ménage de fait dans les derniers mois.
Ouais. C'est ça. Mais d'après elle...
Pour des raisons budgétaires, selon vous?
Ben, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, à un moment donné, les gens aussi, ils veulent du changement. Ils veulent de l'audace. Ils veulent que ça bouge. Alors, c'est bien beau là, de garder des émissions pendant toutes ces années-là, mais c'est bien aussi de changer.
De renouveler.
Et ce dont elle est le plus fière, c'est qu'elle a réussi une espèce de synergie entre les chaînes, entre Ici Télé, Ici RTV, Explora et Tout TV. Nous autres, ça nous énerve des fois, Thérèse, hein, que quand on nous annonce qu'une série va être sur l'extra, mais elle tient son bout, elle pense encore que c'est la solution parce qu'on s'en va vers ça. Puis si on veut réussir à financer les œuvres.
Mais si on veut réussir à financer des œuvres, on ne peut pas avoir 8 plateformes. Aux États-Unis, Netflix, Amazon, mais c'est un autre marché, là.
Ouais.
Ici, sur le marché québécois, Illico, l'Extra, extra, extra, etc. En tout cas, ça peut être, mettons qu'on puisse. On peut se couper l'herbe sur le pied.
Mais je pense quand même qu'elle a eu un bon mandat, bien sûr.
Et en terminant, Richard, un scoop pour nous.
Oui, Les coulisses du palais, vous savez, cette série documentaire qui a été diffusée à Canal D cet hiver, qui était tournée au Palais de justice de Québec, eh bien, il y aura une deuxième saison, mais cette fois-ci au Palais de justice de Montréal. Donc, 10 nouveaux épisodes, ça va être tourné cet automne. Une diffusion seulement à l'automne 2020, c'est loin, mais j'ai quand même hâte de voir ça. On nous dit que les communautés culturelles vont être plus présentes. On va voir aussi les gens qui se défendent seuls, comment ça fonctionne.
Ouais.
Alors, donc, ça va être tourné cet automne. C'est Yves Thériault, là, qui est producteur au contenu, concepteur et co-scénariste de cette série.
Merci Richard. Thérèse et moi, on reçoit Jérémy Demé dès 18h05.